du podcast Au fond des filets. Disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de balado, voici Olivier Brett.
Ah, oui, comment ça va, Olivier?
Pas français.
Ça va... Ça, là.
Petit carreau date, Oli? Changer le mal de place.
Je l'ai pris.
Non, j'essaie de chanter. J'essaie juste de changer le qui.
J'ai arrêté
de
chanter.
D'ailleurs, vous savez comment j'aime toujours, avant les nombreux sujets qu'on a abordés, apporter quelques mises au point.
Oui, c'est vrai. Des fois, tu sais, quand tu dis écoute en arrivant. Là, ouais.
Certaines choses. Là, je vous écoutais en début d'émission. Toi, Georges, t'as jamais amené une date dans un piano bar? Qu'est-ce qui t'a fait, Charlie Brown, en début de show?
Merci, tu cries
après Ben, quasiment, pour qu'il arrête la musique.
Ben, parce qu'on l'a
classique.
Parce qu'il était on pendant au moins 20 minutes.
Classique.
20 minutes, je trouvais que c'était assez.
Non. Ce qui a duré 20 minutes, c'est le show jusqu'à ce que Ben vous demande, là, on fait
ça
quoi,
va
là?
Où, là? On fait ça. Ben, il y a une journée de congé hier. Débarque, on commence avec cette intro-là. On l'a sacré à terre après 20 minutes.
Deuxième chose, là. Je t'ai-tu entendu dire que ça coûte pas cher manger vegan?
Oui.
OK, à l'assiette peut-être, mais toi, ça te coûte 500$ à chaque fois parce qu'il faut que tu en donnes à tout le monde pour les convaincre que c'est bon.
Non, c'est parce que je commande des repas déjà faits. Au lieu de faire l'épicerie puis de le faire moi-même à la maison, fait que c'est différent.
Okay. Cet homme ne fait pas l'épicerie.
Jamais. J'ai travaillé toute ma vie pour faire l'épicerie.
Ça n'a pas de bon sens.
Non, attends,
il mange juste du prêt-à-manger. Il mange juste des traiteurs dans la vie.
Vegan, j'ai travaillé toute ma vie voir des traiteurs.
Oui, mais parlant de vegan, la dernière chose que je veux clarifier...
Hey, s'il y avait un chef perso, ça coûterait moins cher, d'après moi. T'sais, il fait une petite chambre au sous-sol, tout est correct, là.
J'ai pas de sous-sol.
C'est la seule embûche à ce projet-là que Georges voit.
Trouve une de tes maisons où t'as un sous-sol, puis mets-les là.
Hey. Ils sont loués. Ces maisons-là sont louées.
Enlève tes haltères qui ramassent de la poussière à côté de ton vélo, là, dans véranda.
En passant, viens chez nous quand tu veux. Il n'y a pas de poussière là-dedans.
Je te donne deux options.
Il n'y a pas de poussière dans mon gym, Big, je te confirme.
S'il fait une chambre entre ton écran et ton bicycle parce qu'il y a de la place, ou sinon, tu vends NBA Jam, d'après moi, il y a une chambre.
Puis la dernière chose, là. Je t'ai-tu entendu dire que à Ben et Gonzo, tu casses pas les oreilles avec le véganisme?
Oui.
Et aux gens?
Demande-leur.
Ça, j'ai bien compris parce que j'écoutais bien. Là. Ça a précédé les 20 minutes où tu as parlé de véganisme par la suite, en début de show?
Attends, on va poser la question. Gonzo, Ben, je veux que vous soyez honnête. Est-ce que je vous achale avec le véganiste? Je travaille avec vous avec tous les jours.
Non, moins qu'avant.
OK.
Mais... Sois honnête, Big.
Non, mais c'est que maintenant, c'est juste fait de façon de maître. Marketing, Big.
Tout est relatif.
Il m'achale pas. Moi, sérieux, il m'achale pas. Sauf que quand je rentre avec un lunch, il me regarde. Qu'est-ce que tu manges, Big?
Attends. Il t'achale pas, il t'achète. C'est ça qu'il fait.
Mais c'est vrai que c'est bon. On a mangé de la maudite bonne nourriture.
Hey, tous les vegans à Montréal sont des fans des Seahawks.
Aussi.
C'est comme ça que ça fonctionne avec... Non, mais je vais t'expliquer pourquoi, parce que... Puis je suis content de savoir que les gars corroborent ta position, mais moi, là, j'ai les deux enfants de mon meilleur chum qui, le temps d'une photo avec Georges...
Ont été vegans.
Au stade Saputo. Non, ont été traumatisés à vie. Son PTSD, encore aujourd'hui. Le temps d'une photo, t'es pas en train de refaire le monde, là. Il a réussi à se rendre au point de leur dire, vous autres, vous mangez ça des carcasses? Les kids ont 10 ans, ils rencontrent Georges qui est pas imposant pour 2 cents.
Ils sont vegans aujourd'hui.
Ils prennent une photo, ils sont tout contents. Puis là, ce qu'ils se font dire, c'est que c'est comme s'ils ramassaient des carcasses sur le bord de l'autoroute puis c'est ça qu'ils mangent dans leurs assiettes. À ce jour,
ils sont encore traumatisés. Il y avait de la viande dans les mains là, par la photo. Là, tu oublie ça, il fallait que je dise de quoi.
Puis son père était loin. Il en a profité.
C'est pas vraiment les pères qui sont là qui me font peur, si je veux dire ça, là, on s'entend.
Non, c'est les mères.
Il a comme il est tout petit en plus.
Ouais, puis le gars dont je parle fait... 5 et 5 en souliers. Là. Okay. On... 5 et 6, pardon. Désolé. Bon,
mais merci, Oli, pour...
C'était ça quand même. C'est ça que c'était. Les gens qui mangent de la viande, c'est la carcasse animale morte qui se décompose, qui reste dans tes intestins pendant des semaines, qui se putrifie là, puis cause des maladies de Crohn. C'est ça que vous mangez.
Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, au lieu de nous bourrer la tête, il nous fait un Thanksgiving vegan, fait qu'il déguise ça, dans le fond.
Ah ben oui, c'est ça.
Ouais, mais au moins,
c'est bien fait.
Mais au moins, je l'achète, la bouffe. Oui ou non?
Génial. Tu le sais, on a mangé, on a trouvé ça excellent. Puis moi, je le dis souvent, je suis pas quelqu'un qui mange énormément de viande.
La semaine passée, Ben n'a pas amené un lunch. Il a mangé la salade.
Ben non, écoute, il a peur de se faire intimider, il apporte plus rien. d'un coup qui se pointe avec un autre sushi et salami, là.
J'ai acheté son lunch à tous les jours.
D'ailleurs, Ben, faut mettre ça à l'agenda, hein, une soirée sushi salami avant fin de l'année. Là.
Ah oui. Hey, ça va se ramasser sur le menu au social pour le 17.
Oh! J'ai rien dit quand t'as amené du salami pour donner à Ben, j'ai rien dit.
Ben, j'espère. C'était juste un hommage au repas de Ben.
Allez, pour commencer, Laurent Côtois est à Bologne cette semaine. Est-ce que tu penses que ça fait partie de la fameuse synergie qu'on va avoir?
J'espère. Est-ce qu'il ramènera du salami dans ses bagages?
Non, de la sauce à Spang, peut-être. Mais j'espère. On en parlait justement avec Fred cette semaine, parce que cette fameuse synergie-là, là, ça fait des années qu'on nous en parle. Mais ça mange quoi en hiver, la synergie? Tu sais, mon commentaire avec Fred dans le balado lundi, c'est: est-ce que ça se résume à utiliser les ressources de recrutement? Pour moi, ça, c'est même pas passé proche d'exploiter tout le potentiel qu'une vraie entente entre les deux clubs. T'es pas obligé de tout fonctionner de la même manière culturellement. Il y a ben trop de différences entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Italie, le Canada. Mais ça, c'est les genres de trucs où ton entraîneur, là, il est pas obligé d'aller se faire inviter à Manchester City, à Arsenal. Ou tu n'as un club, il peut aller faire un tour là. Puis ça, c'est des échanges de savoir, surtout pour un gars comme Laurent Courtois, qui est encore vert comme entraîneur. C'est pas un défaut, c'est juste factuellement sa réalité. Il y a une saison d'expérience comme entraîneur MLS derrière la cravate.
Ouais, s'exposer, d'échanger, ben c'est oui. Du bagage qui, tu sais.
Surtout, puis ce sera peut-être pas toujours comme ça, parce que là, c'est à partir de 2026, on passe à un calendrier hivernal. Surtout quand toi, quand t'es dans le gros de leur saison en Europe, toi, t'es off. J'espère être off le moins souvent possible, parce que tu vas aller le plus loin possible en série, puis ça commence quand même assez vite au mois de janvier. Mais ça, c'est les genres de trucs où je pense qu'il y a une grosse valeur que tu peux exploiter encore plus. Ça se résume pas juste à « donne-moi ton fichier Excel des joueurs que tu as recrutés ou que tu as identifiés, puis que tu veux pas vraiment à Bologne, je vais voir si je peux me démêler là-dedans ». C'est pas juste ça va plus loin, puis je pense que des petits trucs comme avoir un coach qui peut aller passer du temps là-bas, c'est extraordinaire.
Maintenant, On le sait, on en parle souvent avec le CF Montréal, avec l'Impact. Il y en a plusieurs qui se disaient « Colin, qu'on a collectionné des entraîneurs et tout le reste.
» Tu fais bien de nommer l'Impact là-dedans, parce que oui. C'est vrai qu'il y a un genre d'avant et un après.
Quand on regarde ce qui se passe un peu partout en MLS, est-ce qu'on peut tomber à la conclusion que dans le soccer en MLS, la mèche courte, c'est un peu partout?
100%. Il y a 11 coachs qui sont passés dans le tordeur cette année. Il y en a 6 là. Qui était là depuis, qui était à la barre depuis un an et demi ou moins. Eh, c'est fou, là. T'as des anomalies comme un Jim Curtin à Philadelphie qui était là depuis 10 ans. T'as Gary Smith qui était à Nashville depuis 6 ans. Mais
il y a un roulement. Il y a un roulement qui. Puis pour le partisan moyen, mettons, qui regarde ça, puis qui n'est pas nécessairement, tu sais, dans le soccer ou dans la MLS au quotidien, il peut trouver que, bon, Montréal, c'est broche à foin, on collectionne des coachs. Mais là, avec ça, on peut voir que c'est aussi comme ça. En MLS, un peu partout.
Ben oui, parce que Wilfried Nancy, s'il s'en va, là, et qu'il a fait, entre guillemets, seulement 2 ans, c'est un échec pour Columbus? C'est pas un échec, c'est parce que t'as réussi à faire quelque chose d'extraordinaire.
T'es dans
puis
le
la
moyen.
MLS, c'est un tremplin. Mais en Ligue nationale de hockey, t'es un tremplin vers où? T'es un tremplin vers rien? Puis c'est tellement plus en vase clos, parce que, bon, certains vont parler de Boys Club, mais tu vas pas aller chercher un gars en France... en Argentine, au Mexique, mais c'est la réalité en MLS. Donc, imagine la compétition pour les 29 places d'entraîneur que tu as en MLS. C'est énorme. Tu as toujours une alternative. C'est pas toujours le cas dans les autres sports nord-américains, baseball, NFL. Tu sais, ces chaises-là, tu regardes, tu essaies de faire le tour, tu n'as pas 50 candidats potentiels. Au soccer, c'est complètement différent. Puis, je pense que l'an dernier, quand Hernan Losada est parti, puis surtout quand Laurent Courtois a été nommé le 8 janvier cette année. Tout le monde disait, on le veut pour longtemps. Non, tu veux que la machine soit solide. Parce que les coachs ici, là, s'ils sont bons, ils vont vouloir être payés ou partir ailleurs. S'ils sont pas bons, ils vont partir. Ouais. Donc d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est un exercice qui est bon pour remettre en perspective. Déjà, là, t'as essentiellement, ben, t'as plus du tiers des équipes qui ont changé de coach cette année. T'sais, c'est pas juste une situation à Montréal.
Là, Ali, l'Inter Miami a trouvé son coach. Fait que la sous-question avec ça, est-ce que ce coach-là, avec Messi, va avoir une chimie?
Ah, c'est sûr que oui, parce que les deux ont joué ensemble. Javier Mascherano a joué avec lui en équipe nationale, avec l'Argentine. Il a joué avec lui au FC Barcelone.
Est-ce qu'il a été consulté? C'est ça la question.
Consulté pour?
Pour l'embauche.
Messi?
Oui.
Ben, c'est sûr. Consulter ou décider?
Ouais, c'est Aaron Rodgers de la MLS? Ou...
Parce que regarde, Javier Mascherano a jamais coaché une seule minute en club de sa vie.
Wow!
Il a coaché les U20 puis les U23 de l'Argentine. Ça a été des résultats en demi-teinte. Cette année, l'Argentine a été éliminée, son équipe a été éliminée en quart de finale face à la France aux Olympiques de Paris. Bon, la France, c'est pas la moitié d'une équipe.
Ouais, mais,
là.
Mais ça, c'est fou, ça. Je savais pas ça, mais ça n'a pas de sens.
Mais je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière?
Non expérimenté.
Ouais, mais qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière? Ce gars-là n'existe pas. C'est quoi ton critère? Faut que le gars connaisse la MLS? Si c'est le cas, il n'y a personne qui coche cette case-là qui est capable de gérer Messi. On s'entend? Qu'il y a le standing pour rentrer.
Mais pourquoi c'est si dur que ça, gérer Messi? Le gars, tu l'as joué?
Ouais, mais hey, OK, c'est super intéressant ce que tu dis là. Mais pour avoir le luxe de le laisser jouer, faut que tu en organises 10 autres bien comme ils font en arrière.
Attends, il y a ses chums aussi, là.
Ben oui, c'est autre chose. Tu sais, ces gars-là, Jordi Alba, Luis Suarez. Ouais. Tu sais, Luis Suarez, là, c'est un gars qui a trois fois dans sa carrière a mordu un adversaire
c'est pas
sur le terrain.
C'est pas caractère, là.
Trois fois, là, il a mordu.
Bon, t'as vu ses palettes?
Ça, c'est...
Ouais, moi, j'en ai des palettes, puis je mords personne.
Mais heureusement...
J'ai une gueule pleine de dents, puis je mords personne. J'ai même mes dents de sagesse.
Heureusement, tu fais plus partie de la norme. Je sais pas. C'est... Les Gonzalez sont plus civilisés que les Suarez, de toute évidence. Mais non, c'est complexe. Après, si tu dis non, ça prend quelqu'un qui est capable de gérer Messi. Mais ce gars-là n'a pas d'expérience MLS. Moi, j'ai hâte de voir, parce que l'an prochain, je sais pas comment on va faire. Est-ce que la MLS va être facilitatrice pour qu'on soit capable pas de contourner les règles, mais peut-être de les faire plier un peu. Parce que Mascherano, là, arriver l'an prochain, puis coacher une équipe au quotidien, regardez à quel point John Herdman, qui a de l'expérience de coach en s'il vous plaît, ça a été compliqué faire la transition vers le coaching en club avec Toronto. J'ai vraiment hâte de voir. J'espère que ce ne sera pas un accident de char à Miami, mais hey, quel job pour Mascherano. J'ai toute l'admiration du monde pour sa carrière de joueur, mais là, sa carrière de coach, elle commence, puis pas à peu près.
OK, Étienne Boulay, qui devient investisseur chez les Roses de Montréal. Là, écoute, on en annonce un par semaine. Ouais. C'est un travail marketing big impeccable pour les Roses de Montréal.
Ben, pour vrai.
Pour vrai?
Tu sais, puis je trouve qu'on mêle des concepts qu'on voit de plus en plus dans le... Ben, surtout au soccer.
On va chercher différents domaines, différents...
Yannis Antetokounmpo et Reese Witherspoon, juste pour montrer le contraste, l'actrice, les deux sont actionnaires avec Nashville SC en MLS. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup.
Pat Mahomes aussi, Kansas City, je pense.
Exactement. Donc, tu vas aller chercher un reach. C'est intéressant, ce partenariat-là, à tellement d'égards. Tu vas aller chercher un peu d'équité. Il y a peut-être une certaine portion financière là-dedans. Mais c'est surtout le réseau, l'image, l'aura de ces personnes-là. Puis là, quand tu fais le tour, là, Étienne Boulay, je pense qu'il y a la cote, là, Étienne. Patrice Bernier, Samuel Piette, Maxime Crépeau, Bruni Surin. T'as des gens qui sont du milieu de l'éducation, du pharmaceutique, du sport, de la télé. C'est-à-dire là, quand tu commences à faire aller ton message, ton réseau, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de mettre en place. Les Roses de Montréal n'ont pas frappé un ballon encore sur un terrain. C'est clair que ça va être ça le plus important.
Mais la structure.
Mais je trouve ça tellement intéressant. Puis tu fais la liste, là, vous les avez côtoyés, là, les Piettes, les Crépeaux. C'est des gens à qui tu as le goût de te coller aussi.
Oui.
Patrice Bernier, même chose. Puis c'est ça qui est extraordinaire.
Sympathique, actif dans la communauté.
Exactement. Puis tu crées un capital de sympathie sans avoir... Hey, cette équipe-là a deux joueuses en ce moment. C'est tout, là. Puis monsieur, madame, tout le monde serait probablement pas capable de les nommer. C'est pas grave. Ta job l'an prochain, ça va être de les faire découvrir. Mais d'avoir des gens aussi solides, qui ont une aussi bonne réputation, qui, un, décident d'embarquer dans le projet, et deux... font déjà rayonner ton équipe sans que tu aies foulé le terrain. Chapeau. Les Roses de Montréal, là, jusqu'à maintenant, dans ce qu'ils contrôlent, c'est vraiment bien exécuté.
Là, parlons du comment le Canada grimpe dans le classement de la FIFA.
Hey, 31e. Je suis remonté début 2021. Cette équipe-là était 73e.
73?
C'est fou, là. Puis là, t'es 31e. T'as commencé l'année 2024 en 48e position. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que la prochaine Coupe du Monde, tu vas y participer parce que de toute façon, c'est au Canada. C'est au Canada, aux États-Unis, au Mexique en 2026. Mais ça passe de 32 à 48 équipes. Là, ce que tu es en train de comprendre, c'est que si t'es 31e au monde, puis c'est une année où c'était pas facile, là, quand Jesse Marsh arrive, t'aurais pu te faire planter par un paquet d'équipes. T'as joué l'équipe de France, les Pays-Bas, la France, l'Argentine deux fois, l'Uruguay, après t'as fait des matchs amicaux, t'as joué les États-Unis, t'as joué le Mexique. Tu sais, t'aurais pu complètement passer à côté puis dégringoler plutôt que de grimper. Finalement, t'as réussi à grimper. Moi, ce que je retiens, c'est qu'à partir de 2030, t'as l'obligation d'être à la Coupe du Monde. C'est plus un party de se qualifier. Parce que t'augmentes le nombre. Toi, t'as grimpé au classement. Déjà, avec 32 équipes, t'es 31e. Je sais que ça fonctionne pas comme ça. Il y a des équipes par continent puis il y a des quotas à respecter pour construire les compétitions. Mais si tu fais un raccourci intellectuel, t'es en train de dire 32 équipes, t'es 31e au monde, il faut que tu sois là.
Si tu le fais pas, ça deviendra une déception.
Ben surtout, maintenant que tu passes à 48 équipes,
ah oui,
t'es obligé de te retrouver là. Puis je trouve ça intéressant de te retrouver dans une situation où t'as la pression de te qualifier. C'est pas juste du bonbon d'être là, puis on est content, première fois depuis 86, let's go, on sort les vieilles images. Là, c'est pas ça. C'est un, t'es obligé de te qualifier, puis deux, une fois que t'es là, il faut que tu sortes de ton groupe.
Allez, au fond des filets?
Au fond des filets, lundi.
Lundi.
Oui, lundi, je retrouve Fred avec moi pour... là, ça commence à être sérieux, là, parce qu'on va connaître les finalistes de la MLS Cup, parce que c'est les finales de conférence en fin de semaine. Avec... ouais, j'ai très, très hâte de voir. Là, tu te retrouves avec Orlando, entre autres, qui arrive de nulle part. Puis ce qui est intéressant avec Orlando, c'est qu'à chaque fois que Fred fait ses prédictions au début de l'année, c'est comme si... Je pense pas que c'est exprès, mais c'est comme s'il était un peu hater d'Orlando. Puis les gens à Orlando sont toujours fâchés après lui quand ça sort sur le site de la MLS.
Ah, il est pas bien vu.
Juste parce qu'ils avaient pas vu en série, c'est ça, quelque chose comme ça?
Exactement. Puis là, tu sais, de voir Orlando...
Il se fait huer quand il va là-bas.
Ça, je sais pas si ça c'est va aussi drôle, loin ça. Que ça. Mais si Orlando se ramasse en finale de MLS Cup, j'ai hâte de voir le genre d'amour qu'il va avoir.
Il nous a dit ça, en onde.
T'es sérieux?
Il se faisait huer quand il allait là-bas parce que le monde a retenu ses paroles, ce qu'ils ont dit. Puis chaque fois qu'il va là-bas, il donne un accueil spécial.
La bonne nouvelle, c'est que, mettons, tu vas pas souvent dans la vie Orlando, là.
Ouais, ben lui, il va une couple de fois par année.
Pour la job.
Ouais, c'est ça, pour le travail. Puis après ça, tu prends tes jambes à ton cou et tu t'en vas.
Bon. Merci, allez, toujours très bon.
Salut, les gars.